Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour, je reçois au micro d'Au fil des pages Michel Crépu. Michel, bonjour.
Bonjour.
Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes rédacteur en chef de la revue des Deux Mondes, une revue que désormais vous venez nous présenter chaque mois. Alors, actualité littéraire oblige, vous abordez le cas John Little. John Little, Michel Crépu, est incontournable ?
Jonathan, hein, cher... oui, incontournable. Enfin, tout est contournable. Hein. On peut très bien se passer de lire ce livre. Mais enfin, quand on s'occupe d'une revue et que on a quand même le souci de s'intéresser à ce qui se passe en littérature, surtout dans une période, cette fameuse et sacro-sainte période de la rentrée littéraire, là, on peut dire qu'on a été servi et qu'on a eu droit à quelque chose qui, pour une fois, sortait du petit train-train et du petit cérémonial ordinaire. Nous avons eu devant nous un événement, un aérolithe, 900 pages, qui m'ont paru immédiatement, je dois le dire, car la chronologie est importante dans ces affaires. Je l'ai lu début juillet, avant, je précise bien que tout se déchaîne autour de lui, donc dans le plus grand calme et la plus grande objectivité, et j'ai immédiatement vu que c'était un grand livre. Voilà. Donc
Alors, prix de l'Académie française, prix Goncourt, je m'arrêterai simplement sur une phrase, ou en tous les cas un commentaire, donc de Nicole Casanova, qui est l'auteur qui se penche sur le livre de Jonathan Little dans la revue des Deux Mondes. Nicole Casanova cite Little, page 719. Tout le monde était comme lui, moi aussi, j'étais comme lui et vous aussi à sa place. Vous auriez été comme lui. Elle parle bien évidemment du héros, entre guillemets, du livre, qui fait tous ces massacres de manière très banale, comme l'a montré Hannah Arendt. Eh bien, Nicole Casanova répond à cette affirmation. Qu'en sait-il ? Nous avons le droit de lui dire non. Il n'y a pas de banalité du mal et il n'y a pas de fatalité.
Nicole Casanova a évidemment, je dirais, n'a pas tort d'écrire cette phrase. Je crois que elle a même raison. La liberté humaine est fondamentale et, bien entendu, laisser entendre que tout le monde se serait comporté de la même manière, c'est d'une certaine façon faire injure à ceux qui ont choisi de résister au nazisme. Donc ça, c'est tout à fait clair. Ce qui, je crois, me paraît important avec Les Bienveillantes, qui donc est le récit, les mémoires d'un officier nazi après la guerre, qui raconte ce qu'il a fait. À mon avis, je crois qu'il faut rattacher ce livre à un grand modèle littéraire, si vous voulez, qui est vraiment fondamental dans l'histoire de la littérature en Occident, qui est le modèle des confessions. Ce sont des confessions, ce livre. Alors, évidemment, ce n'est pas saint Augustin qui témoigne de sa conversion devant Dieu. Ce n'est pas non plus Rousseau qui déballe ses histoires dans ses propres confessions. Mais c'est, au fond, comme si l'un des prévenus du procès de Nuremberg s'avançait au micro et commençait à s'expliquer sur ce qu'il a fait, sur ce dont il se sent responsable ou pas. Et je pense que ce livre n'aurait pas eu l'impact qu'il a eu s'il ne venait pas finalement, s'il ne s'inscrivait pas dans cette longue, longue tradition, dans le sillage de cette expression littéraire qui met en scène un homme devant les autres hommes, n'est-ce pas ? C'est la première phrase du livre, « Frères humains », qui d'ailleurs est une citation de Villon, un poème de Villon. Un homme s'adresse aux autres hommes et je pense que c'est quelque chose qui est très important dans la compréhension que l'on peut avoir aujourd'hui, maintenant, du succès de ce livre, qui n'est pas un succès de marketing.
Alors vous posez une question, la revue des Deux Mondes pose une question, c'est la question tout simplement des rapports entre le roman et l'histoire. Il y a un article de Dominique Fernandez qui cite le livre de Merle, qui cite le livre de Malaparte, oui. Capote. Le roman dessert l'histoire ou au contraire, c'est parfois la transcender?
Ah, je pense absolument qu'il, je ne sais pas s'il la transcende, hein, la transcendance appartient à Dieu, donc je ne sais pas si. Mais je suis très profondément convaincu que le roman est en aucune façon contradictoire avec l'histoire, et qu'il est même, il peut être, et ce livre en est la preuve, un instrument de connaissance vient de cette confrontation avec le matériau historique. Alors là, en l'occurrence, il s'agit du nazisme, il s'agit de la Shoah, et c'est donc un événement historique évidemment particulièrement considérable, enfin dont l'importance n'échappe à personne. Mais ce qu'a fait Little me rappelle cette définition de Kundera, enfin cette expression de Milan Kundera qui définit, je crois, dans l'art du roman, le roman comme pouvant être un instrument de connaissance. Eh bien, je crois que avec les moyens du roman, qui sont des moyens, comment dire, de précision, d'affinement des choses, ce que l'on peut raconter dans le roman, ce que l'on peut approcher de la réalité avec les moyens du roman, c'est toujours, je crois, évidemment, quand on a affaire à un grand écrivain, c'est une possibilité de saisir le réel, la réalité, dans une plus grande finesse. Et je pense que dans le cas précis, on a là une véritable réussite, d'autant plus impressionnante qu'elle vient d'un auteur qui n'a pas été contemporain direct des événements. Alors, ce qui n'était pas le cas de Robert Merle dans La mort est mon métier et Malapart dans Capote.
Alors, je passe du roman à l'histoire, l'histoire scientifique. Vous faites dans la revue des Deux Mondes toute une recension d'une biographie qui elle aussi devient un livre incontournable. C'est la biographie de Mao Zedong.
Absolument, oui, bien sûr, c'était tout à fait logique, enfin si vous voulez, tout à fait normal d'inscrire ce livre, un commentaire sur ce livre par André Zavriev, qui a écrit donc cet article, qui est un commentaire de lecture de la biographie publiée par Yung Chang et son mari John Holliday chez Gallimard l'été dernier, au mois de juin dernier. Alors là, nous sommes dans un autre, j'allais dire, cas de figure littéraire, qui est la biographie. On peut tout à fait critiquer cette biographie. Elle l'a été par d'éminents sinologues qui sont absolument pas suspects de maoïsme et qui ont critiqué ce livre en laissant entendre qu'il était tellement à charge contre Mao que d'une certaine manière, il manifestait, il révélait de la part des auteurs, notamment John Holliday, ancien maoïste il y a quelques années, au fond, pouvait donner l'impression de brûler ce qu'il avait adoré autrefois. Peu importe, on peut discuter de ça à l'infini. Yung Chang avait publié il y a quelques années un livre absolument admirable qui s'appelle Le Signe Sauvage, et où elle racontait son enfance et son adolescence en Chine sous la Révolution culturelle. C'est un des plus beaux livres, les plus bouleversants que je connaisse sur le maoïsme. Enfin, et là, on a une approche biographique du personnage de Mao, et il y en a d'autres, et tant mieux.
Autre biographie, celle de Charles Maurras par Joe Canty, paru chez Flammarion. Marin de Viry, qui est l'auteur de l'article, explique comment lire Maurras en faisant abstraction de ce que l'on a tendance à retenir uniquement chez lui, à savoir son antisémitisme.
Mais oui, alors là, c'est encore un autre problème, mais il est évident que la personne et l'aventure intellectuelle idéologique qu'a été Maurras est une pièce capitale pour l'intelligence que l'on peut se donner de l'histoire intellectuelle française depuis un siècle. Le livre de Joe Canty, de ce point de vue, est vraiment, je crois, un livre d'une très grande qualité, parce que il est d'une grande impartialité, d'une grande justesse dans l'approche. Je crois qu'il ne se cache pas les difficultés considérables, enfin, et bien sûr l'antisémitisme en premier lieu, mais précisément parce qu'il ne se cache pas ces difficultés, il permet aussi au lecteur tout simplement de se faire une idée de la complexité, de l'importance de Maurras dans l'histoire des idées en France. Voilà, c'est un livre qui manquait absolument. Ce n'est pas un livre partisan, ce n'est pas un livre à charge. C'est un bon livre, un très bon livre qui permet de se faire une idée de l'importance qu'a pu avoir Maurras pour plusieurs générations d'intellectuels.
Enfin, Giocanti sort du politiquement correct, hein, parce qu'encore une fois, on ne voit que l'antisémitisme. Oui. Le politiquement correct, c'est également, j'allais dire, un des aspects de l'œuvre d'Alexandre Zinoviev, à contrario, bien évidemment. C'est qu'Alexandre Zinoviev, auquel vous rendez hommage dans la revue des Deux Mondes.
Enfin, c'est pas moi, c'est Mathieu Baumier qui a écrit un article.
Est un article, eh bien, qui rappelle tout simplement la disparition de ce personnage que l'on a complètement occulté dans les médias.
Absolument. Zinoviev a eu son heure de gloire dans les années 80, lorsque la bataille contre le totalitarisme battait son plein et que les dissidents étaient à l'honneur des médias, de Solzhenitsyn à Boukovski, en passant par bien d'autres, dont Zinoviev, évidemment. Zinoviev était un grand écrivain, l'auteur de ce livre incomparable qu'est Les Hauteurs béantes. Et vous avez raison de le dire, qu'on a totalement oublié, une fois que le rideau de fer est tombé, bien on a considéré que ces braves gens étaient devenus nuls et non avenus. Et en plus, Zinoviev n'a jamais, manqué une occasion de se rendre souverainement déplaisant pour les innombrables politiquement corrects qui se sont fait un plaisir naturellement de le censurer ou de l'ignorer, ce qui est une forme de censure naturellement. Et donc on n'a plus jamais entendu parler de Zinoviev. Et Mathieu Baumier, qui lui rend hommage dans la revue, je crois, redonne un éclairage sur l'importance tout à la fois littéraire et polémique de Zinoviev. Mais je pense que la littérature, là aussi, est première dans son cas. On ne parlerait pas de Zinoviev si Zinoviev n'avait pas été l'auteur des Hauteurs béantes, qui est encore une fois un des grands, grands livres sur le totalitarisme.
Alors je souhaite quand même terminer cette présentation du numéro de décembre de la revue des Deux Mondes par une fleur, si je puis dire, par quelque chose de beaucoup plus positif, l'évocation d'une femme, une femme qui a été interviewée dans la revue. Il s'agit de Catherine Deneuve, une Catherine Deneuve qui a un regard extrêmement lucide, c'est assez impressionnant, sur le métier d'acteur. C'est une très longue interview.
Oui, alors je suis très heureux que Catherine Deneuve, naturellement, ait bien voulu accorder du temps à la Revue des Deux Mondes. Je crois que c'est probablement la première fois qu'une star du cinéma s'exprime dans la revue. Et c'est l'occasion d'un regard sur sa carrière cinématographique, 50 ans de cinéma. C'est là aussi un témoignage, je crois, qui peut donner au lecteur l'envie de voir ou de revoir les films où Catherine Deneuve a joué.
Elle a un regard vraiment très mûr, très, très poussé sur sa carrière, finalement, et sur le cinéma en lui-même.
Ce qui est quand même amusant, si vous voulez, entre guillemets, dans son cas, c'est qu'elle dise qu'elle est entrée dans le cinéma finalement un peu par inadvertance, un peu par hasard. Ça, c'est quand même fascinant parce que bon, on n'attend pas forcément cette entrée en matière venant de quelqu'un qui incarne aussi bien encore la magie du cinéma. S'il y avait là une vocation réalisée naturellement, alors finalement, les choses auraient pu prendre un tour très différent.
On la sent très proche dans cette interview de son rôle qu'elle a joué dans Indochine, en tous les cas dans son caractère de femme française.
Oui, vous avez raison. Il y a là matière à travers la figure de Deneuve et les personnages qu'elle a incarnés, et notamment ce rôle auquel vous faites allusion, la possibilité d'un portrait possible de la française, d'un mélange d'élégance, de réserve et en même temps d'une forme très particulière d'impudeur, enfin de vulnérabilité, de séduction, tout ça compose un personnage de femme très étrange et fascinant.
Eh bien, Michel Crépu, merci beaucoup.
Et c'est moi.
Je renvoie donc nos auditeurs à la Revue des Deux Mondes, au numéro du mois de décembre. Il s'agit du numéro 12. Merci.
Merci à vous.
À très bientôt.